les ondes de Mista. Mista, c'est un sobriquet, en même temps un mystère. Les ondes mystérieuses, c'est-à-dire les ondes mystérieuses du voyage. Mon émission va traiter les sujets liés à l'asile et l'immigration. Les ondes de Mista. Bonsoir chers auditeurs, bonsoir chères auditrices, c'est un plaisir de vous retrouver ce soir. Aujourd'hui, l'émission a pour thème Calais, après la jungle, la savane. Nous n'allons pas faire un retour sur le démantèlement de la jungle de Calais il y a quelques années. Ce qui est plus intéressant, c'est de savoir comment se présente la situation actuelle de migrants qui tentent de traverser la Manche pour rejoindre l'Angleterre au péril de leur vie. Derrière eux, des associations sur place qui militent pour leur bien-être. Notre invité a promené son micro au mois de février dernier à Calais et à Grande-Synthe et a recueilli le témoignage des uns et des autres que vous écouterez en deux temps. Elle préfère parler de montage sonore intitulé « Un jour à Calais ». Il s'agit donc de Stéphanie Prien, sociologue, maître de conférence à l'Université de Lille. Bonsoir Stéphanie et merci de répondre à notre invitation.
Bonsoir Éminence, merci beaucoup pour cette invitation.
Pourquoi Calais alors que ce n'est pas votre ligne habituelle parce que vous vous intéressez beaucoup plus à la crise migratoire au Venezuela ?
Alors, j'ai voulu répondre à un appel qu'a lancé Médecins du Monde et le Secours catholique que j'ai vu passer sur Facebook au mois de décembre. Qui s'appelle Speak Out et qui a été de la part de ces deux associations le fruit d'un constat qui est que certes on parle de la situation mais peut-être un petit peu toujours de la même manière et qu'il manque de réaction politique, c'est un peu comme une litanie, donc les choses bougent très peu et donc ils ont lancé cet appel à venir témoigner de façon très large en invitant des personnes avec leurs compétences ou leur regard ou leur écoute ou leur sensibilité à venir passer un moment pour constater avec les personnes sur place l'ampleur de l'indignité des conditions qui sont faites aux personnes qui cherchent à passer à Calais et à Grande-Synthe et peut-être à alimenter leur plaidoyer pour qu'il y ait un changement politique pour sortir de cet enlisement, pour sortir de ce risque d'enclave territoriale qui est vécu sur ces territoires parce que les personnes qui cherchent simplement à passer sont empêchées de passer, sont arrêtées dans leur projet migratoire, dans leur désir de rejoindre un projet, une famille, des amis. Et donc des personnes ont répondu à cet appel, mais il y a eu une photographe, il y a eu un dessinateur, il y a eu un journaliste, il y a eu aussi des jeunes gens de l'école supérieure de journalisme de Lille. Et puis il se trouve que j'ai ces dernières années travaillé avec un autre regard que le regard sociologique académique. Une autre écoute même, puisqu'il ne s'agit pas seulement de regarder mais aussi d'écouter, et que j'ai fait des montages sonores sur la route de l'exil vénézuélien entre Cúcuta, qui est à la frontière entre Venezuela et la Colombie, jusque Santiago de Chili. Mmh. Et quand j'ai vu passer cet appel, en tant que citoyenne, pas seulement en tant que sociologue, je me suis dit ben, pourquoi pas proposer cette manière de faire entrer dans les problématiques. Et donc je suis allée une journée avec Médecins du Monde à Calais, à la clinique mobile à Formiolet, et une journée avec Médecins du Monde toujours à Grande-Synthe, au Pitouc, dans cette zone où Médecins du Monde va faire des maraudes. Puis je suis retournée avec le Secours catholique pour faire un deuxième montage sonore avec la radio faite pour et avec les exilés, Calais Border Broadcast, et j'ai fait donc un deuxième montage sonore pour essayer de répondre à cette demande.
Et justement, en tant que citoyenne, qu'avez-vous pu constater ? Dites-nous.
Alors, j'ai essayé d'être vraiment à l'écoute en tendant mon micro, sachant que je ne suis pas non plus naïve, que je connais aussi ces situations parce que je suis impliquée sur mon territoire de vie, avec le collectif Solidarité Rome et avec les questions aussi migratoires qui traversent les Hauts-de-France. Donc, je connaissais aussi déjà cette situation. en partie. En tout cas, j'ai rencontré des gens qui sont généreusement à l'œuvre dans une situation extrêmement complexe. Donc, je vais leur laisser la parole aussi dans les montages, puisque c'est tout l'objet aussi de pouvoir laisser cette parole aux bénévoles et aux exilés. Les exilés qui sont plutôt qu'on entend plutôt dans le deuxième montage avec la radio, grâce à la radio. C'est vraiment grâce à la radio parce que c'était aussi difficile d'aller vers les personnes qui en fait sont aussi souvent sollicitées par les médias ou sollicitées par les institutions à faire des récits. Alors que Calais Border Broadcast, c'est un endroit où elles peuvent aller choisir aussi les thématiques sur lesquelles elles s'expriment. Donc c'est une radio, un plateau radio qui est à l'accueil de jour, qui accueille une centaine de personnes par jour à Calais, porté par le Secours catholique, et où donc du coup la parole est un peu différente.
Et ces migrants sont-ils au nombre de combien à peu près, et ils sont de quelle nationalité ?
On en parle un petit peu dans les deux montages. Ça dépend d'abord des territoires, puisque Grande-Synthe est très différent de Calais. Il y a une pluralité de parcours, avec des situations très différentes aussi selon les territoires. Mais en tous les cas, ce sont toutes des personnes qui fuient des situations extrêmement complexes, que ce soit la guerre, que ce soit des situations de survie. Et on vient les fragiliser encore plus. Et je pense que c'est vraiment l'enjeu, là, en termes de politique française, à cet endroit-là, Grande-Synthe et à Calais, c'est cette question de la limite du droit commun, puisqu'on empêche des gens de vivre leur projet et d'aller au bout de leur désir migratoire.
Nous allons à présent suivre le premier montage sonore, Un jour à Calais.
حتى ستة ايت ستة ثمانية حتى ستة ثمانية بالجنجل
du mois du mois de juin il est resté jusqu'au mois d'août à la jungle, l'ancienne jungle qui était près de la gare routière, et il est passé en Angleterre, mais ils l'ont déporté. Monsieur a été déporté, mais sa femme est restée en Angleterre. Donc là il essaie de passer parce que sa femme est en Angleterre, ils sont séparés, il vient d'avoir un petit bébé qui a un mois et demi et il ne l'a pas encore vu. Donc là, il doit retenter de passer. Mais hier, il a tenté de passer, mais ils ont fait naufrage, le bateau a fait naufrage. Donc voilà, et là, il retente jusqu'à temps qu'il puisse passer parce qu'en fait, le couple est séparé avec un enfant.
Je vais pouvoir commencer le brief. Donc on est autour de 800 personnes actuellement, toujours sur les mêmes sites, il n'y a pas de modification au niveau des lieux. Action juridique de la mairie de Calais, je vous avais informé qu'il y avait eu deux ponts qui avaient été évacués en centre-ville. Et il y a deux ponts où encore il restait du monde et qui n'avaient pas été évacués. Et donc, il y a une audience donc, au tribunal administratif de Lille ce vendredi pour l'évacuation donc, des deux autres ponts. Solidarité internationale, avec qui on a travaillé par le passé, était présent la semaine dernière pour réactualiser donc, un diagnostic qu'ils avaient fait en septembre sur l'eau. Autre information, ça c'est si on vous en parle sur les campements, le corps d'un homme a été retrouvé en début de semaine dans le port de Calais.
Et là tu vas à Calais et Grande-Synthe, t'es au pied du mur, quoi. C'est-à-dire que c'est l'endroit où on empêche les gens de continuer leur voyage. C'est l'endroit où on bloque et où tout bloque. Les exilés sont bloqués, les habitants sont bloqués dans cette situation, les autorités sont bloquées, les acteurs associatifs sont bloqués, tout le monde est en situation de blocage.
Et donc pour le moment, il est au niveau de l'Institut médico-légal à Lille pour faire des recherches, pour savoir qui il est. Et donc, si jamais voilà, on vous en parle... Nous, au niveau interassociatif, on n'a pas beaucoup d'informations sur...
C'est un exilé ou...
En fait, il est, le corps est vraiment décomposé, a priori, parce qu'il a passé beaucoup de temps dans l'eau. Et donc, ils ne savent pas, en fait, si c'est un exilé, si ça ne l'est pas. Après, la probabilité que ça soit un exilé, elle est grande. En fait, c'est surtout s'il y a des personnes qui signalent une disparition.
D'accord.
Dans, si jamais il y a des exilés qui vous disent, ben voilà, j'étais avec un tel, j'ai plus de nouvelles. Voilà, sur les infos contexte. Sur l'organisation de la sortie, Alain et Edouard à l'accueil.
J'estime que à partir du moment où la vie n'a pas été trop... Comment dire, trop difficile pour moi, j'estime que je le dois aux autres. C'est... Voilà. C'est une grande loterie, hein, la vie.
Marie et Christian en consultation. Et Christophe et Abdoul en médiation.
Je suis infirmière générale. Je travaille au bloc opératoire 15 ans. Ensuite, notre diplôme, j'ai un diplôme de kiné en série. J'ai demandé pour valider mon diplôme. En France, ils refusent. Ils n'acceptent pas l'étranger. Ensuite, je suis bénévole avec Médecins du Monde, ça fait un an et demi. Le même programme avec le Croix-Rouge. Je suis bénévole avec Croix-Rouge.
Au niveau de l'installation, donc Christophe sera responsable de sortie et puis un peu référent au niveau de l'installation.
Pourquoi j'ai choisi de m'engager ? Parce que j'ai du mal à comprendre qu'un état, enfin que ce pays-là dans lequel je vis, puisse être aussi répressif envers une population qui n'a rien demandé, quoi. Qui est là, et quand on voit les conditions dans lesquelles ils vivent, la petite pierre que j'apporte, bon, c'est pas grand chose, mais ça fera pas avancer énormément le problème. Mais c'est mieux que rien, quoi.
Sur le contexte sanitaire, on a des variants, de variants, a priori, qui circulent. Et donc, j'aimerais que perde pas nos bonnes habitudes et puis aussi éviter voilà les trop grands regroupements, mais voilà, mais c'est pas forcément le cas à Fornuley, ça reste quand même assez espacé.
Tu vois, ça c'est une station essence, c'est quand même on dirait un bunker en Ukraine, quoi. Ça c'est station essence totale, putain de vache, j'ai traversé l'Ukraine de nuit. C'est exactement ça. Les gens, ils sont ici, ils existent, ils sont vivants, ils sont pas... Les gens n'ont pas disparu, quoi. Mais d'un seul coup, parce qu'il y a une visite de la préfecture ou parce qu'il y a une visite de Darmanin, bah, on estime que bah non, Fornuley, c'est beaucoup trop près du tunnel sous la Manche. Allez, on évacue et puis, maintenant c'est un site interdit. C'est, encore une fois, c'est quelle est la réalité de la situation, quoi. Pourquoi les gens sont là et pourquoi on ne vient pas rencontrer ces gens et chercher des solutions adaptées pour chacun, pour chacune. On est vraiment dans une stratégie de pourrissement et on attend, bah c'est la stratégie d'épuisement dont parlait Gérard Collomb quand il est venu ici. Hein. Il avait dit, en 2017, il avait dit il s'agit de décourager les gens de venir à Calais. Donc ça fait, voilà, ça fait 4 ans où tout va dans le sens de décourager, d'épuiser, de rendre impossible le désir de rejoindre le Royaume-Uni. Et on a, voilà, on a une stratégie qui a... une situation qui pourrit encore, et plus ça pourrit, plus les gens sont en souffrance. Et c'est une espèce de truc finalement non politique, quoi. C'est-à-dire que c'est une politique de aucune décision. C'est une politique de on laisse mourir en fait, plus que pourrir. Mais
ouais, le thé, on va le mettre. Là, on fait l'accueil, la tente ici. Et ouais, le thé, on va le mettre là en arrière. On va la mettre ici. Je t'ai fait tourner. Hein. Ouais. Est-ce qu'on met les parois? On va mettre les poids.
Alors, habituellement, on a beaucoup de problèmes à Calais, hein, je parle, des problèmes de pied, parce que souvent, ils marchent énormément. Quand ils partent en CAES, à chaque fois qu'ils sont expulsés, on leur propose un hébergement et on les emmène dans des centres assez loin, par exemple à Croisille, enfin, beaucoup ici partent à Croisille. Et comme, bon, en général, il n'y a pas de, pour eux de projet de rester en France, etc. Donc, au bout de 2-3 jours, ils s'en vont. Et on en a vu beaucoup qui reviennent à pied, tu vois, d'Arras à ici, à pied. Et on en a vu beaucoup qui avaient des pieds épouvantables à cause de ça. Donc, ça, beaucoup de problèmes de pieds. Sinon, en général, ce sont des gens en bonne santé. En bonne santé, entre guillemets, parce qu'ils sont jeunes. Que pour arriver ici, si tu as déjà une pathologie avant, tu meurs sur la route. Quoi. Donc voilà, ils sont bien abîmés, mais ils sont résistants, on va dire. Sur le plan uniquement physique, par contre, sur le plan moral, ils sont très éprouvés. Quoi. Ils sont... Alors souvent, ils nous consultent pour des maux de tête, ça c'est typique, où ils ont mal partout, où ils n'arrivent pas à dormir, où voilà. C'est souvent des motifs où il faut prendre un peu de temps, discuter avec eux, leur expliquer que bah, leur corps fonctionne bien, mais que c'est l'environnement qui fait voilà, que c'est tout ça, c'est insupportable pour un individu. Et après, il y a des traumatismes, bon, des plaies, parce qu'ils essayent de passer sur les camions, ou quand ils essayent d'escalader les grillages, etc. Donc des plaies au niveau des mains. Après, il y a aussi, bon là en ce moment, j'en ai pas eu trop ces derniers temps, mais lié au quand les CRS, quelquefois ils ont tendance à résister aux CRS, etc. Donc c'est les coups de matraque, etc. Voilà. Donc il y a ça, tout ce qui est traumatique.
Christophe, il y a déjà eu la distribution de repas, c'était les Anglais qui étaient là avant, non?
Il me semble, ouais. J'ai pas vraiment fait attention. Faudrait voir avec Marie, mais ouais, je pense. Mais ils reviennent après Utopia, revient cet après-midi.
Ah ouais.
Et donc là, on va fermer et puis on va les faire rentrer par ici. Okay.
Souvent, tu vois, là, tout à l'heure encore, je me disais, il y a... Nous, on est sur un réflexe de solidarité ou d'assistance, mais qui est le nôtre, quoi. Et rarement, on se met rarement à la place des exilés. Hein. On croit qu'on le fait, mais on ne le fait pas au sens où on ne peut pas le faire. Et de se retrouver en situation de survie, les priorités pour un exilé, c'est pas du tout celles que moi je définirais comme étant des priorités, quoi. Je suis sûr que si on faisait l'exercice un peu poussé, on est à côté de la plaque, quoi. Leurs enjeux sont pas ceux que nous on estime, quoi.
L'autre jour, j'ai eu un jeune Somalien qui parlait parfaitement bien français. Ça faisait 3 jours qu'il était là, mais il était assez. Quand il m'a raconté là tout son parcours, sa mère était instite et c'est elle qui lui avait. Elle lui avait enseigné le français, l'anglais, elle voulait vraiment une promotion pour son fils. Du coup, elle l'a encouragé à partir. Bon, donc, il venait de Somalie, donc il a fait toute l'Italie, enfin, traverser la France. Et il était ici avec vraiment beaucoup. Il y avait la pêche, je trouvais. Il dit non, je vais en Angleterre. Donc, il me demande, donc c'est à 30 km. Ben, oui. Et il dit, bah oui, je me suis renseigné pour passer par l'Eurotunnel, mais il paraît qu'au milieu du tunnel, il n'y a plus d'oxygène. Je l'ai trouvé, tu vois, très naïf dans son... dans son discours et en même temps plein d'espoir, de projets. Bon, je me suis dit, bon, je lui ai souhaité bonne chance et j'ai dit que j'espérais qu'elle allait passer en Angleterre. Après, bon, je ne sais pas très bien comment ils fonctionnent, s'ils ont déjà des passeurs déjà repérés. Peut-être qu'il avait un passeur, hein, j'en sais rien, mais c'était ce côté... Bah oui, je me suis renseignée, mais pour traverser le tunnel, après, au milieu, il n'y a plus d'oxygène. Ça m'avait trouvé ça vraiment... Bon, c'est vrai qu'on fait des rencontres surprenantes. Quoi. Je suis assez admirative de ces gens qui ont vraiment tout ce qu'ils ont galéré là pour arriver dans cette misère ici.
Oui. Je suis engagé bénévolement parce que rester, je suis demandeur d'asile. Et comme la procédure est un peu longue, pour ne pas s'encombrer à l'intérieur, il faut au moins venir prendre de l'air et puis tu as besoin de quelque chose, il y a d'autres qui ont besoin des choses aussi avec toi. On t'aide, il faut aider aussi les autres s'il y a des occasions, comme ça que je me suis présenté pour faire le bénévolat. Parce que j'ai déjà travaillé avec les humanitaires pour le compte de Hasser au Tchad, les réfugiés soudanais. Quoi. Donc je travaillais déjà là. Et si je vois des demandeurs d'asile comme moi, pourquoi pas les aider? J'ai le master en immunologie. Oui. Je fais ça à l'Université catholique au Cameroun. Oui. Mais on ne me donne pas une autorisation de travail. Moi, je suis là comme ça. Je ne dois pas rester là parce qu'il y a plein de gens qui ont besoin de moi. C'est pour ça que moi, je suis venu faire le bénévolat. Je ne fais pas seulement bénévolat au niveau des médecins du monde, je fais aussi avec ces cours catholiques. Et moi, je suis donneur volontaire. Je dis, pourquoi pas, il y a des gens qui souffrent à l'hôpital, il faut que je donne mon sang. Et j'ai une carte de donneur, l'autre donneur volontaire du sang, parce que je suis biologiste, je suis de la santé. Il faut que je, même s'ils ne veulent pas m'utiliser pour m'employer dans le sens où ils vont me payer l'argent, mais au moins, moi, je donne mon sang pour sauver des vies. Parce que c'est une chose qui est une bonne chose. Tu n'as pas besoin de récompense de personne. Mais Dieu voit. Il a le dernier mot.
Alors Stéphanie, avez-vous parlé hors micro avec un migrant?
Alors, est-ce que j'ai parlé à un migrant qui n'aurait pas voulu... de fait, beaucoup n'ont pas voulu... beaucoup demandent en fait si mon micro c'est prendre des images, parce qu'ils ne souhaitaient pas être pris en photo ou filmé, même si, par exemple, la photographe Julia Drouel a fait un très très beau travail et a pu prendre des photos, ou Bertrand Versailles, le journaliste qui est allé, a pu aussi prendre des photos. Mais beaucoup de personnes, en fait, pour beaucoup de personnes, c'est quand même compliqué d'être filmé, parce que notamment parce que leur situation, elle est... La situation qui leur est faite est indigne. Ce ne sont pas eux qui sont indignes, hein, c'est la situation qui leur est faite. C'est-à-dire que les conditions de vie au Pitouk, par exemple, le jour où j'y suis allée, il pleuvait énormément. Au milieu de ce terrain qui est investi par des familles kurdes, ou des jeunes hommes kurdes, il n'y avait pas beaucoup de familles le jour où j'y suis allée, c'était beaucoup des jeunes hommes, ou des hommes en tout cas. Au milieu, c'était un énorme, c'était presque un lac. Enfin, c'est-à-dire qu'on était avec des bottes dans la boue, c'était... extrêmement difficile de se chauffer, le bois était mouillé, les tentes sont extrêmement fragiles et puis elles sont sans arrêt enlevées par les forces de police. Donc du coup, quand on est dans cette situation-là, c'est difficile de parler aussi et de se montrer dans cette situation. Alors est-ce qu'il y a des personnes qui nous disent des choses hors micro? En fait, mon micro, il vient prendre plutôt des ambiances et je n'ai pas fait beaucoup d'interviews. Je n'ai pas eu affaire avec cette question de je vous parle mais je veux pas qu'on écoute ce que j'ai dit. La radio pour et avec les exilés, je trouve que c'est vraiment un très très beau projet qui n'est pas facile. D'ailleurs, ben, on va le voir dans le deuxième montage, les bénévoles ont un souci vraiment très fort et très beau de donner la parole et de faire en sorte que cet outil qu'est la radio soit approprié par les personnes. Mais c'est pas simple, parce que beaucoup disent ok, c'est un chouette projet, mais pas maintenant, parce que maintenant, mon enjeu, c'est de m'alimenter, c'est de me réchauffer, c'est de faire une petite lessive et puis de tenter ma chance pour aller en Angleterre. Donc l'enjeu, il est avant tout d'être porté vers l'avant et pas tellement d'être posé à cet endroit-là pour témoigner.
Nous allons à présent marquer une pause musicale. Stéphanie, y a-t-il une différence entre les migrants qui sont à Calais et ceux qui sont à Grande-Synthe? Leur histoire, leurs conditions de vie?
Alors, ce que je voudrais répondre à cette question, d'abord, c'est une question peut-être un peu plus générale, c'est-à-dire que, enfin, ce serait le fait d'insister sur la catégorie des migrants, qui est une catégorie qui est très homogénéisante, qui fait comme si on avait affaire à un ensemble homogène qui avait les mêmes caractéristiques, alors que ce sont bien des personnes qui ont des projets, qui ont des histoires, qui sont insérées dans des réseaux familiaux, amicaux, qui se projettent dans des endroits, qui viennent depuis des endroits très différents. Et j'insiste là-dessus parce qu'il y a ce risque-là, en fait, de réifier des catégories, donc de leur donner une existence alors même qu'elles recouvrent des réalités, des sensibilités et des histoires extrêmement diverses. Alors, pour ce qui concerne les situations territoriales entre Calais et Grande-Synthe, les acteurs locaux m'ont invité à aller voir des endroits qui effectivement sont différents et qui du coup accueillent aussi des personnes qui vont avoir des expériences diverses. À Calais aujourd'hui, en tout cas au moment où j'ai rencontré les personnes à Calais, il y a une telle politique qui empêche les points de fixation que les personnes sont sans arrêt en mouvement, sont sans arrêt empêchées, sont sans arrêt chassés aussi et donc ont du mal à s'y poser. À Grande-Synthe, il y a le Pitouc, qui est un endroit aussi extrêmement précaire, et où on m'a dit aussi que les personnes qui étaient à cet endroit-là étaient plutôt, venaient plutôt du Kurdistan, parce que il y avait la possibilité pour elles de se retrouver avec des réseaux aussi qui les aident à passer, voilà, dans, au moins dans cette différence-là, quoi.
Nous allons marquer une autre pause musicale.
Et puis papa mal tête. Elle met ses opères, mais c'est une why. Ben bricho, mimi la sac à baille. Ni sa godo, mais ça va pas l'école, yoka yoka. Ni pas la polo, pas ni pas la polo.
Pendant c'est Simona, elle est collée, ben bricho.
Ben bricho, ben bricho.
Pendant c'est Simona, elle est collée, ben bricho.
Ben bricho, ben bricho.
Yoka du maman, yoka fait la silo.
Ben bricho, ben bricho.
Maman, je tape à la machine.
Yo voy café vice pipié au Paul Jacques. Hala j'ai ici fait la chocolat à manger Jacques. Si WhatsApp yo voy café vice pipié au Paul Jacques. Pourtant c'est l'école maman il voyait l'école.
Stéphanie, est-ce que l'appel de médecins du monde Hauts-de-France tient toujours jusqu'à aujourd'hui? Donc, est-ce que les gens peuvent aller, retourner pour prendre, recueillir les témoignages sur place?
Alors, donc c'est l'appel des médecins du monde et du Secours catholique, porté par les deux associations. Alors, l'appel tient toujours, mais ils ont fait une première série, en fait, avec donc ces personnes que je nommais tout à l'heure, donc le journaliste, la photographe, le dessinateur et moi-même. Ils vont aussi accueillir des personnes avec une notoriété publique plus importante, en tout cas qui sont du domaine public et qui vont pouvoir aussi interpeller depuis un autre endroit. Et ils vont effectivement relancer un autre appel. Donc effectivement, vous pouvez prendre contact avec Médecins du Monde, Hauts-de-France et le Secours catholique si vous êtes intéressé pour témoigner.
Et en attendant de prendre contact, nos auditeurs peuvent visiter la page Facebook de Médecins du Monde Hauts-de-France pour découvrir le travail fait par les dessinateurs, photographes, journalistes, étudiants en journalisme. Nous allons suivre le deuxième montage sonore « Un jour à Calais ».
My name is Neymar Mahmoud Abdullah.
Ah, Neymar. In English? You want to speak in English?
No, speak Arab.
Okay, طيب. بالعربية. مرحبا بك نيمار. وإنت من أي دولة؟
Sudan.
من السودان. أهلا بك.
Alors, pour ceux qui viennent pour la première fois, juste un petit rappel rapide. L'accueil de jour, c'est un lieu de répit physique où les personnes peuvent se mettre au chaud, charger leur téléphone, boire un thé, un café. C'est aussi un lieu de répit relationnel, puisque dans une ville qui est extrêmement hostile, où il y a de la violence policière, des rochers qui sont posés, des expulsions de campements, énormément d'hostilité à l'endroit des personnes exilées, c'est un espace où, au contraire, elles sont accueillies, elles sont reconnues, elles sont les bienvenues. On est heureuse et heureux de les accueillir.
Bonjour tout le monde. Je raconte une histoire. Bon, pour la première fois de ma vie, d'avoir monté dans un avion. Je suis un immigrant. J'étais à Malte. Bon, j'étais beaucoup torturé à Malte. J'étais emprisonné pendant 9 mois en prison. Et ma sortie de prison, bon, j'ai rencontré plein des amis, bon, qui ont vraiment de la chance qu'ils étaient là-bas avec leurs papiers. J'étais avec eux. Que je me suis préparé pour arriver en France. C'est ma première fois d'avoir monté dans un avion. Dans l'avion, bon, j'ai vu beaucoup de choses que je n'ai jamais vues. Et c'est pour la première fois d'avoir rencontré une dame française à la même classe, à la deuxième classe, et dans la même chaise que j'ai portée. Et pourtant, on a payé le même argent, $115, 115 euros. Elle-même, elle a payé 115 euros. C'est le même argent. Le problème est que la dame est venue, elle a appelé la gérante de l'avion. Elle a dit que je ne peux pas m'asseoir auprès des nègres.
Du coup, là, c'est la cour. Souvent, ils jouent au foot et au volley ici. Ici, il y a les préaux, donc les gens ils peuvent charger leur téléphone en étant dehors.
C'est là-bas que je distribuais les masques ?
Ouais.
Okay,
ouais. Du coup, ici, on fait le thé et le café. Et on reçoit aussi du pain de la part de Salam, parce qu'on propose aussi des tartines, de confiture, de mayonnaise, de fromage frais. Et... ouais, c'est tout.
C'est le café.
C'est le café.
Je sais pas si c'est autre... Ah bah, voilà, là-bas, c'est le poste de toi, Adrien. C'est l'entrée. Les coiffures, ça va dans l'angle là-bas.
Ah, attends, donc ça ouvre, est-ce qu'on va prendre les chaises et...
Ouais, on peut faire ça, pour aider à préparer la... Et ça intéresse de voir aussi, aujourd'hui de faire aussi un atelier radio, donc on va inviter les personnes à venir autour d'une table radio, on a une table radio qui est pas mal faite, avec des micros, tout ça, et on va leur présenter la table et on va vous inviter à parler de l'avenir aujourd'hui.
And welcome to Radio Caliborder Podcast. Here we are at the Day Center and we are here with...
My name actually is Muhammad Adam.
Muhammad Adam,
yes,
it's a nice name. What does mean Muhammad Adam?
Actually, Muhammad name is the name of the Messenger, you know. So actually, I'm like the Muslim, it will be the normal name for me.
Okay. Yep. And who called you Muhammad? Who named you?
Actually, my father, you know, my parents, they chose that name for me.
Okay, and why do you know?
Actually, yes, because it's really, I find that name is fine, you know.
And where are you from?
Actually, I'm from Sudan.
Oh, Sudan.
Yeah.
Which part of Sudan?
Actually, I'm from the south, you know.
South?
Yeah.
Which part? South is very big.
Yeah, actually, it's very big. So I'm from Darfur, you know. It's South Darfur.
Oh, South Darfur. So it's not South Sudan. Okay,
yeah,
I got
South
it.
Sudan.
Cool.
Yeah.
And so what you do, Muhammad?
Actually... What you mean by what you do?
I mean in your free time. What you do in your free time?
Actually, I'm free time here. I'm just trying, you know, to cross UK. That's all I'm trying to do, you know, because I'm still, you know, suffering here in France. So that's why if I reach UK there,
okay,
I'm going to start a new life, you know. Actually, like, I feel like a human being because actually here I'm not feeling nothing, you know, because everything is really absent. So that's why I'm trying every night, every day, and so on. We're gonna cross, inshallah.
If you want, you can speak on the radio. It's a radio from Secours Catholique. The name is Calais Border Broadcast. And today we do an open mic. Like everybody can come, sit and speak on the
mic. I speak to open the border.
And when you get to UK, what you want to do there?
Actually, when I want to go there, actually, I want to continue my study, you know, because I have a lot of years, you know, I want to continue. So that's why, you know, because there is still my parents, they need me, you know, my family, you know. So everything there is really very bad, so I got to build my future very well, you know. So that's why I have a lot of years, you know.
And did you study it before, like when you was in?
Yes, actually, I stopped.
South Darfur.
Yes, actually, that's true. I stopped in the high school, you know. I get certificate from the high school, and then I stopped.
And where you want to study?
Actually, I want to study a lot of things, you know. Actually, I want to be an engineer, you know.
Je lui dis, madame, est-ce que tu es sûr de ce que tu dis? Elle dit que non, je ne peux pas m'asseoir auprès des nègres.
Nous sommes le 2 avril 2021 en direct de l'accueil de jour de Calais.
In 2018, yeah, I started my journey from Mali, from Gao to a nearby city, original place called Kidal. From Kidal, I went to Tamaracet in Algeria. So from Algeria, we changed to Ouzda in Morocco. Yeah, from okay, actually in Morocco, we spent some couple of months on the rocks, just like the jungle here. There's nothing, there's no tent. We sleep in the cold when the rain fall. We just in just like that. We spent some couple of months until we're able to cross the sea to Spain. Yeah, and from Spain, I came to France. From France, I went to Germany. From Germany, I came back again to France, and now I'm in Cali, and I've been Cali here for, let's say, five to six days now. So I'm practically a new person here, and I want to continue my journey to the UK.
Tu voulais dire un poème, non?
Afrique, mon Afrique.
Oui, ça peut être une bonne idée, ça peut être beau.
Ce que j'ai dit là, c'est pas un poème, mais c'est la réalité quand même.
C'est la réalité?
Ah oui, c'est la réalité.
Bah, vas-y, on t'écoute alors.
Afrique, mon Afrique. Ah.
Una radio al di là delle frontiere.
Radio lekum, fata'ala u'abbir birayak.
With and for refugees.
Cali, Border Podcast.
Et comment appréciez-vous le travail des ONG sur place et surtout de Médecins du Monde, Hauts-de-France et les Secours catholiques Caritas France pour cette initiative, le Speak Out?
Alors, pour cette initiative en particulier, je la trouve vraiment intéressante et je crois vraiment que ça permet de déplacer le regard. Néanmoins, les faits sur les politiques publiques restent malheureusement marginales. Donc je pense qu'il faut continuer à soutenir ce travail des associations, surtout que ce sont des associations qui sont souvent empêchées, c'est-à-dire que l'action locale, politique et policière vient non pas soutenir le travail des associations, mais vient les empêcher, vient parfois les criminaliser. Et c'est donc vraiment important que l'opinion publique puisse ouvrir les cadres du regard et ne pas seulement porter un regard soit victimisant, soit criminalisant, mais puisse poser la question politique, et la question territoriale, la question du droit, des droits humains. Il va y avoir, Médecins du Monde me disait qu'il va y avoir bientôt un rapport, une enquête parlementaire sur la situation des migrants et des exilés en France en général, et je pense que ce rapport va confirmer les nombreuses atteintes aux droits, tant d'abord et avant tout vis-à-vis des exilés, que vis-à-vis de l'exercice du travail associatif. Et donc cette initiative Speak Out, elle est essentielle, mais elle est très marginale au regard du caractère essentiel d'intervention politique pour changer les politiques publiques et pour éviter que ces endroits de frontières soient des endroits hors du droit commun, deviennent des enclaves territoriales dans lesquelles on peut agir indépendamment du respect des droits humains.
Merci beaucoup Stéphanie, Priya.
Merci Éminence.
D'avoir accepté notre invitation et de nous avoir emmené un jour à Calais à travers vos montages sonores.
Merci beaucoup.
À vous, chers auditeurs et auditrices, merci infiniment d'avoir été avec nous. Le programme continue sur votre radio.
Les ondes de Mista. Mista, c'est un sobriquet, en même temps un mystère. Les ondes mystérieuses, c'est-à-dire les ondes mystérieuses du voyage. Mon émission va traiter les sujets liés à l'asile et l'immigration. Les ondes de Mista.